Mais bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Moi c'est James, comme Erika a mentionné, je suis le pasteur adjoint à une nouvelle église à Louvain-la-Neuve. Moi, je dis nouvelle, ça fait 5 ans, merci Seigneur en fait, nos 5 ans d'existence là sur le site de Louvain-la-Neuve. Moi je m'occupe surtout du ministère, merci Raphaël. Du ministère parmi les étudiants, donc si jamais vous connaissez des étudiants qui débarquent sur Louvain-la-Neuve ce septembre, je serai très heureux de les inviter pour une bonne frite sur Louvain-la-Neuve. Nous sommes dans une série actuellement à Louvain-la-Neuve, dans le livre de Daniel, c'est pourquoi vous avez, chers amis, Daniel 3, j'espère que ça sera édifiant pour nous tous. Ce matin, bienvenue à vous si vous êtes là en visite, peut-être vous êtes là pour découvrir la foi chrétienne, alors bienvenue à vous, vous êtes dans le bon endroit, vous avez des gens qui aiment la parole, qui connaissent la parole, donc n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine et discuter avec d'autres sur la foi. Je vous invite à la prière avant de commencer ensemble. Quelques paroles de Nebuchadnezzar. De Daniel 2, qui a dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Et il révèle des mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. Et en effet, notre Père Céleste, nous te louons ce matin parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des rois. C'est ton royaume qui existe pour toujours et nous nous humilions devant toi ce matin. Aide-nous à écouter tes paroles de vie et de grâce et d'entrer dans ce royaume si ce n'est pas encore le cas. Nous prions cela pour ta gloire. Amen. Chers amis, un verset sur l'écran pour commencer. Un verset peut-être que vous connaissez du Nouveau Testament, de 1 Pierre, qui dit ceci. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » On va parler un peu commencer avec un peu de botanie ce matin. Je ne suis pas expert, je ne sais pas si quelqu'un travaille ici dans le domaine ou fait ça le samedi pour votre congé dans le jardin, mais j'ai mis les images de 2 arbres sur l'écran. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces 2 arbres. Nous avons à gauche un arbre qui se trouve surtout en Amérique. Je ne sais pas si vous avez visité. Il y a beaucoup de touristes qui rendent visite. Il s'appelle une séquoia. Une séquoia. C'est très grand, impressionnant. Mais ce qui rend le séquoia spécial, c'est que c'est un arbre qui est tout à fait habitué au feu. Il n'y a pas de danger pour ces arbres quand la fournaise arrive. Car leur extérieur, leur écorce, est fait expressément pour le feu. N'est-ce pas incroyable? Ils sont super résistants au feu et ils se multiplient même dans la fournaise. Dieu a fait en sorte que leur cône s'ouvre une fois que le feu passe. Alors le feu doit venir en quelque sorte afin que leur semence tombe par terre. La deuxième arbre que vous voyez sur l'écran, merci Raphaël, quelle magie de technicien, merci beaucoup. Vous connaissez sans doute, c'est le fameux pin, n'est-ce pas? Ça se tient dans le froid, dans les climats chauds, un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Mais si vous avez acheté un sapin de Noël, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le garder loin du feu, n'est-ce pas? Ça c'est la règle d'or. Il ne faut pas mettre votre sapin à côté du feu à la maison, sinon vous allez prendre le goûter avec les pompiers, je pense, ce jour-là. Non, les aiguilles sont super sèches, leur écorce fine comme du papier, et leur sève est comme de l'huile qui fait que agrandir le feu. Alors, chers amis, chers frères et sœurs de la rue du Moniteur, notre question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal ou pas le feu dans la vie chrétienne? Est-ce que le chrétien doit attendre le feu comme étant quelque chose de normal ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que comme le sapin, on est censé être loin, très loin du feu? Attention, ce n'est pas fait pour. Après tout, notre Dieu est le Dieu d'amour, n'est-ce pas? Il ne veut pas que ses enfants souffrent. Alors, n'est-ce pas normal que notre Dieu, le Dieu des cieux et de l'éternité, nous garde loin du feu? Ou, chers amis, est-ce que le chrétien ressemble plutôt au séquia et nous sommes faits pour le feu? Et si c'est le cas, quel est le plan de Dieu dans tout cela? Il y avait des croyants au premier siècle qui posaient exactement cette question. Si vous lisez la lettre de 1 Pierre, c'est le thème majeur. Est-ce que c'est normal? Et ils ont commencé peut-être à poser la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est pour moi? Est-ce que j'appartiens vraiment à un royaume éternel si moi je suis en train de vivre la fournaise? Et peut-être pour vous, vous êtes en train de poser la même question. Avec la maladie, la perte de l'emploi, des problèmes familiaux, la solitude, la mort d'un proche, des diverses épreuves dans nos vies. Est-ce que nous sommes un sapin ou un séquia? Et nous avons une réponse super claire, n'est-ce pas, dans le chapitre que nous avons lu de Daniel 3. Nous avons 4 points sur l'écran. Ce matin, nous allons parcourir ce chapitre ensemble. Le premier point pour nous, c'est un roi en colère connaissant la fin de son règne. Alors, si vous connaissez un peu le livre de Daniel, c'est un chouette livre, n'est-ce pas, si vous n'avez pas lu. Je vous invite à lire ça cette semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas situé en Israël, comme beaucoup de livres dans la Bible, mais c'est situé à Babylone. Et nous sommes à un véritable carrefour dans l'histoire de la Bible. Nous lisons en chapitre 1, verset 2, que Dieu a livré son peuple au pouvoir de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors Dieu reste le roi, mais il a livré son peuple à un autre roi, un roi terrestre, pour un peu de temps. Je dis un peu de temps parce qu'en Daniel 2, juste le chapitre avant, et c'est utile de connaître le contexte, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a eu un rêve important. Et il voulait demander à tous les magiciens de Babylone de donner le sens de ce rêve. Personne ne pouvait donner le sens. C'était Daniel, un judéen, qui a révélé le mystère à Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce que Nebuchadnezzar a vu? Mais il a vu une statue, une fameuse statue, peut-être vous connaissez déjà, en 4 parties. Et cette statue parlait de comment Dieu, un jour, allait faire monter son royaume à lui. Le royaume éternel de Dieu allait monter une fois pour toutes. Ça, c'est pourquoi c'est très intéressant, notre premier verset de ce chapitre 3. Qu'est-ce que nous lisons en chapitre 3, si vous avez ça sur les yeux? Daniel 3, verset 1. Nous lisons que le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura. Alors ça, c'est un peu bizarre parce que nous venons d'avoir une statue dans le chapitre 2. Nous venons de voir le statue qui représente 4 royaumes terrestres avant que Dieu instaure son royaume éternel. Et ici, nous avons Nebuchadnezzar qui fait une statue. Et c'est en quel matériel? Vous voyez, c'est tout en or. 60 coudées en hauteur. Je pense que ça, c'est une coudée, si j'ai bien compris, jusqu'à la coude, quoi. Une 50 centimètres, en quelque sorte. Et donc, ça fait 30 mètres, 60 coudées. Ça, c'est pas mauvais pour une statue tout en or, n'est-ce pas? Quelle extravagance! Alors, pourquoi cette statue, à votre avis? Ça, c'est la grande question. Moi, j'ai vu une émission la semaine passée. Hein, c'était une émission sur le Taj Mahal. Je ne sais pas si vous avez vu des images. C'est très impressionnant. Et moi, j'ai découvert avec ma femme, c'était un monsieur qui voulait faire quelque chose d'extravagant pour son épouse. Alors, il a employé 20 000 hommes et 10 000 éléphants, les pauvres hommes plutôt, et les éléphants, pour impressionner sa femme. Est-ce que ça, c'était le but de Nebuchadnezzar? Mais nous devons dire non. Il avait quelque chose en tête. Vous voyez le verset 3 et 4? Il fait une grande cérémonie d'ouverture pour cette statue. Il a un héros, verset 4, qui crie avec force. « Voici ce qu'on vous ordonne, tous les peuples, nations, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, qu'est-ce que c'est le sambuc, je me demande, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or qu'adressait le roi Nebuchadnezzar. » Pourquoi la statue alors? Ce n'était pas pour la déco intérieure, pas un cadeau pour son épouse. Non, Nebuchadnezzar, il veut être adoré. Il veut que lui, le roi de Babylone, soit vu et reconnu par tous les citoyens, qu'il est le numéro un dans le monde, il est le chef. Après tout, il vient de vaincre pas mal de pays. Il a le plus grand empire à ce siècle-là. Et maintenant, il demande l'adoration, de reconnaître que lui, il est le roi avec un R majuscule et que ses dieux, à lui, sont les vrais dieux. Et vous avez vu la conséquence si on ne fait pas, verset 6. Alors c'est tout de suite jeté dans la fournaise. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça à votre avis? Pourquoi surtout après le chapitre 2? Mais le rêve dans le chapitre 2, ça a montré quelque chose à Nebuchadnezzar. Ça a montré que son royaume n'est pas un royaume éternel. Que lui, il fait partie de l'histoire de Dieu. Et que Dieu, le Dieu de Daniel, est le vrai Dieu, le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. C'était une statue en quatre parties. Et quelle partie faisait Nebuchadnezzar? Mais j'ai mis ça sur l'écran aussi, le verset 38 du chapitre 2, où Daniel a dit, « C'est toi qui es la tête d'or. » Alors, est-ce qu'on voit maintenant pourquoi il a fait le statue au chapitre 3? Tout en or? Pas juste la tête en or, mais toute la statue, de la tête jusqu'aux orteils. Il ne veut pas simplement être la tête, loin de là. Non, il veut être le roi éternel. Nos actes révèlent notre théologie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça révèle chez Nebuchadnezzar? Mais nous voyons qu'il ne veut pas reconnaître que Dieu est le Dieu des cieux. Et il est fâché que son règne va prendre fin. Alors il commence à se fâcher. Non, il veut être la tête, la poitrine, les jambes, les pieds. Et le verbe qu'il est employé au verset 1, qu'il a fait monter ce statut, verset 1, c'est le même verbe qui était employé au chapitre 2, verset 44, en parlant du royaume de Dieu. Dieu allait faire monter son royaume éternel. Alors, quelle est la portée de cette statue? Mais merci de pardonner mon langage, je pense que c'est un droit d'honneur au plan de Dieu. Moi, la tête? Jamais de la vie. C'est moi, le roi. Alors ça nous amène à notre deuxième point, question, c'est comment est-ce que le peuple de Dieu va réagir? Et c'est notre deuxième point, l'adoration courageuse jusqu'à risquer sa vie. Alors je ne sais pas si vous pouvez imaginer d'être là, est-ce que vous pouvez imaginer d'être à côté de Daniel et ses amis à cette époque-là? Ça devait être une vraie épreuve, n'est-ce pas? Constamment craintif d'entendre cette fameuse musique, n'est-ce pas? Ce n'était pas du tout un jeu. C'était adorer ou être brûlé. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer, vous êtes à Colruyth, en train de faire vos courses, vous êtes dans le bureau, en train d'envoyer votre dernier mail à vos clients, et vous espérez de toute votre force que ce n'est pas le moment d'entendre la musique de Nebuchadnezzar. Oh non, et puis vous entendez le son. Est-ce que vous pouvez imaginer les pensées qui vous envahissent à ce moment-là? Vous entendez le cornemuse, le sambuc, la flûte, le cor, la peur, j'imagine, vous saisit à ce moment-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que quelqu'un peut me voir? Est-ce que c'est grave si, selon Dieu, je me prosterne juste une fois, cette fois-ci? Qu'est-ce qui va se passer à mes enfants? À mon épouse. Il y avait en ce jour trois hommes que nous avons croisés déjà au chapitre 1, qui sont venus avec Daniel lors de l'exil, juste des adolescents, des ados, mais des ados avec beaucoup de courage, qui ont décidé de ne pas se prosterner devant l'homme le plus puissant du monde entier. Est-ce que vous avez remarqué le complot? Il y avait des Chaldéens à cette époque-là qui ont un plan. Verset 9, ils viennent devant Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 9, « Oh, cher roi, vis à jamais. » Ça, c'est exactement ce que Nebuchadnezzar va entendre, n'est-ce pas? « Ah, vis à jamais, merci. » Tu sais, roi, il n'y a pas tout le monde, en fait, qui se prosterne devant toi en train d'obéir à ta commande. Quand la musique commence, on a constaté qu'il y a trois adolescents, on a vu, qui ne le font pas. Et verset 13 montre la réaction de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Il était irrité, furieux, et il donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois hommes furent amenés devant le roi. Alors, pouvez-vous imaginer le sentiment d'être ces trois hommes, d'avoir les serviteurs qui toquent à la porte, qui vous amènent devant le roi? Qu'est-ce qu'il a dit serait la conséquence si on ne prosterne pas? Il a dit, ce moment même, ça sera la fournaise. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, chers amis, moi je pense qu'on voit le courage des amis ici, devant le roi, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi est-ce que je pense ça? Mais parce qu'ils ont donné une deuxième chance, n'est-ce pas, pour sauver leur peau. Une deuxième chance. Ils ont eu la chance de dire devant le roi, « Oh roi, nous voulons te dire, en fait, nous sommes vraiment désolés. Désolés, c'était une erreur de notre part. On n'a pas entendu clairement la musique. On était distraits en train de jouer aux jeux vidéo. On a oublié de le faire. Mais maintenant, on vous promet, c'est sûr, Nebuchadnezzar, on va prosterner cette fois-ci. » Ils ont donné une deuxième chance, n'est-ce pas, devant le roi. Mais quel courage! Qu'est-ce qu'ils font? Verset 15. « Est-ce que vous allez adorer ?» Nebuchadnezzar demande. Et la réponse, verset 16. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sinon, cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente de ta main. Sinon, ou dans d'autres traductions, même s'il ne le fait pas, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Quel courage, n'est-ce pas? Les trois amis de Daniel ne vont pas se prosterner, adorer un autre dieu, même avec une deuxième chance. Ils sont prêts à risquer leur vie, leur tête, pour adorer le Dieu du cinquième royaume, dont son royaume éternel va venir. On doit poser la question, n'est-ce pas? Pourquoi répondre? Pourquoi être prêt à risquer sa vie, à pas juste adorer en geste, et être trompé par ce mensonge, « Ah, moi je peux adorer Dieu dans mon cœur, même si ce n'est pas dans les gestes. » Mais ils sont prêts à être connus comme étant les adorateurs du Dieu des cieux et de lui uniquement. Mais quelle est la raison pour cela? Mais ça doit être ce que nous avons vu en Daniel 2. Ça doit être le fait que le royaume de Dieu est un royaume éternel. Alors les amis de Daniel, ils savent qu'il y a quelque chose qui va durer sur l'horizon. Quelque chose qui va venir, un royaume qui dure pour toujours. Un endroit de paix, de joie, d'amour et de vie pour les adorateurs de Dieu. Alors pourquoi risquer sa vie? Mais un peu comme nos frères et sœurs dans le monde entier qui sont prêts à risquer leur vie pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a quelque chose après cette vie. Une réalité qui va venir un jour, le Seigneur Jésus va revenir dans sa gloire pour instaurer un royaume éternel. Et les amis sont prêts à aller dans la fournaise pour souffrir un peu de temps parce qu'il y a un héritage éternel devant nos yeux. Et ça, c'est le même pour vous et pour moi, n'est-ce pas? C'est l'éternité qui est en train de nous pousser. Est-ce que ça vous pousse? Cette dernière semaine, l'éternité, ça me pousse à lire ma Bible. L'éternité, ça m'aide à encourager un frère ou une sœur. L'éternité, ça me pousse à être prêt à ouvrir ma bouche devant les collègues ou les membres de la famille. L'éternité me pousse à prier pour nos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Et l'éternité nous pousse à ne pas nous prosterner devant les faux dieux. Daniel était très pertinent, je pense, pour l'Église du 1er siècle et du 2e siècle. On voit que le livre d'Apocalypse, la Bible termine avec ce livre qui cite beaucoup Daniel, beaucoup d'images de Daniel. Et il y a une lettre qui est écrite dans le livre d'Apocalypse à une église de Smyrne. Et on lit pas mal dans l'histoire que cette église, comme pour les autres villes, ils étaient donnés le même choix. Même choix, c'est prosterner devant l'empereur comme roi et Dieu, ou c'est des lions, tout comme Daniel, ou le feu. Tout comme Daniel. Et nous lisons dans l'histoire à propos de l'évêque de Smyrne. Il était appelé Polycarpe. Et voici ce que le monsieur qui l'a interrogé a dit. Je pense que c'est sur l'écran. Il a dit ceci à Polycarpe. « Je ferai en sorte que vous ne soyez pas consumés par le feu. » Ah non, pardon. « Vous soyez consumés par le feu, étant donné que vous haïssez les bêtes sauvages. » À moins, deuxième chance, que vous changez d'avis. Et la réponse de Polycarpe, c'est très Daniel 3, n'est-ce pas? Vous menacez avec le feu qui brûle pour un peu de temps, après quoi il est éteint. Parce que vous êtes ignorant du feu du jugement qui vient et du châtiment éternel qui est réservé pour les impies. Mais pourquoi vous vous tardez? Venez, faites comme vous le souhaitez. L'éternité change tout, n'est-ce pas? Et je ne sais pas pour vous, mais le verset 19 m'encourage beaucoup en Daniel 3. Ses amis, quel modèle, verset 19. Parce qu'ils savent que Dieu peut les délivrer. Après toi, il est le Dieu des cieux, verset 18. Il peut délivrer. Mais, verset 19, voici ce qu'ils disent. Même s'il ne fait pas. Même s'il ne fait pas, on ne va pas prosterner devant vos dieux. Ça, c'est une leçon importante pour nous, n'est-ce pas? Dieu peut nous délivrer de la fournaise, mais si on est jeté dans la fournaise, qu'est-ce que vous allez dire à ce moment-là? Est-ce que vous allez continuer à adorer le Seigneur des rois? Ils reconnaissent que le sort de, c'est le sort que le Dieu des cieux a choisi pour nous. La réponse de Nebuchadnezzar, alors, verset 19, alors il est devenu encore plus furieux. Il a décidé de chauffer la fournaise 7 fois plus chaud. Je ne sais pas si c'est faisable, mais c'est ce qu'il a demandé. Donc les serviteurs vont essayer quand même, n'est-ce pas? Et verset 23, ils sont liés et jetés là-dedans. Alors, comme j'ai mentionné, on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a Daniel 3? À quoi est-ce que c'est utile pour nous, pertinent pour nous, l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours? Mais nous voyons, en fait, que dans le livre de Daniel, que c'est un cycle. Il y a un cycle qui existe. Daniel va montrer que dans l'empire médo-perse de Cyrus, sur l'empire grec, sur l'empire romain, et oui, dans toute l'histoire jusqu'à la fin du monde, on aura le même schéma. C'est-à-dire, on aura un peuple qui est ordonné, commandé, à faire ce que Dieu ne veut pas, à ce qui lui plaît pas. Et là, le peuple de Dieu sera dans la même situation. Et nous lisons dans le Nouveau Testament qu'il y a aussi un roi prétendant, comme Nebuchadnezzar, qui est super fâché. Et nous allons lire cela ensemble. Je pense que c'est sur l'écran. Apocalypse, chapitre 12. Nous lisons à propos de quelqu'un qui s'appelle l'accusateur. C'est un roi prétendant, Satan. Satan, en hébreu, veut dire celui qui accuse. Et Satan aime bien accuser les pécheurs, n'est-ce pas? Les pécheurs, à cause de nos fautes, nous sommes face au jugement de Dieu. Mais il y avait un grand moment dans l'histoire où le Fils de Dieu est venu pour payer la dette des pécheurs. Et tout comme en Daniel, en Apocalypse, nous voyons un royaume éternel qui est instauré par un Fils de l'homme, comme en Daniel 7. Il est venu comme un agneau pour racheter un peuple de toutes les langues, de toutes tribus. Et tout comme Nebuchadnezzar était tellement fâché qu'il était la tête, alors nous voyons en Apocalypse 12, l'accusateur, il est tellement fâché que son règne, maintenant, va finir, va terminer un jour. Sa grande puissance d'accuser les pécheurs de leur faute a été retirée de lui. Alors je vous invite à lire avec moi Apocalypse 12, verset 7. « Il y a eu une guerre dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Mais malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Chers amis, est-ce que vous êtes conscients, il y a quelqu'un qui rôde comme un lion, comme dit 1 Pierre 5, sur la terre. C'est un roi prétendant, comme Nebuchadnezzar, qui est super fâché que son règne s'approche de la fin. Le dragon, il s'appelle, et tout comme Nebuchadnezzar, il va faire tout ce qu'il peut pour faire les dommages, les dégâts, les ennuis pour le peuple qui veut prosterner devant un autre Dieu que lui. Je pense que c'est un peu comme les enfants quand ils sont envoyés à l'escalier. Je ne sais pas si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous donnez comme punition peut-être. Dans notre famille, on donne un avertissement, donc si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas gentil envers le frère et sœur. Deuxième chance, voilà, tu es envoyé à la marche, la première marche de l'escalier, tu dois t'asseoir. Mais parfois, un enfant, quand il reçoit la punition, il sait que c'est terminé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas si vous avez des enfants, c'est juste mes enfants. Parfois, en allant vers la punition, ils vont essayer de faire le plus de dommages que possible en allant. Ils vont donner un coup de pied à leur frère. Ils vont donner frapper la porte, quelque chose comme ça. Et nous avons un roi prétendant qui connaît que c'est la fin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va essayer d'amener beaucoup d'enfants de Dieu à l'enfer avec lui. Le dragon, il s'appelle. Et il faut juste lire le livre d'Apocalypse pour découvrir comment il utilise le monde et le faux prophète dans l'Église pour essayer d'amener des gens vers l'enfer. Babylone, le monde. Est-ce que vous luttez avec ça aussi? Satan veut nous attirer par ce monde qui est si temporaire, avec la richesse, la gloire humaine, pour nous amener à la mort. Il utilise deux bêtes, les rois et les faux prophètes, dans le livre d'Apocalypse, pour commander au peuple de Dieu de se prosterner devant le faux Dieu. Et le roi et la fausse religion travaillent ensemble pour amener des enfants de Dieu à l'enfer pour toujours. L'ironie, bien sûr, c'est que le moyen de vaincre dans le livre d'Apocalypse, tout comme en Daniel, c'est de ne pas avoir une vie tranquille ici-bas. En fait, ça va être de suivre l'agneau partout où il va, comme dit l'Apocalypse, même jusqu'à la fournaise, jusqu'à la croix, de garder le témoignage. Ça, c'est le moyen de vaincre et accéder au royaume éternel. Alors, le livre de Daniel nous demande de faire quelque chose, n'est-ce pas? Dans les derniers jours, ça sera toujours le même cycle, pendant tous les empires, n'importe quel roi, n'importe quel pays. Est-ce que, chers amis, nous allons tenir ferme jusqu'à la mort, parce qu'un héritage éternel est devant nos yeux. Alors soyons courageux. Mais peut-être, comme moi, vous avez des questions. Comment est-ce que moi, je peux faire ça? Moi, je ne suis pas comme les amis de Daniel. Moi, je pense que j'aurais prosterné si j'étais à Colruyt. Honnêtement, j'aurais peur et j'allais prosterner tout de suite. Peut-être vous avez le même sentiment. Moi, je ne suis pas comme Daniel ou ses amis. Et ça, c'est pourquoi notre troisième point nous encourage tellement sur l'écran. C'est la protection divine dans le feu. Alors, nous venons d'avoir la scène terrifiante, n'est-ce pas? Verset 24. Les trois amis sont jetés dans le feu. Et Nebuchadnezzar, il a ses yeux qui sortent de son corps, n'est-ce pas? Il voit quelque chose. Et il demande à ses conseillers, verset 24, est-ce qu'on n'a pas jeté trois hommes au milieu du feu? Est-ce qu'ils n'étaient pas liés? Mais bien sûr, au roi, ils répondent. Et alors, verset 25, pourquoi est-ce que moi je vois quatre hommes au milieu de la fournaise et tous sans lien? Et aucun d'eux a une griffe, une blessure. On a vu qu'il faisait chaud, n'est-ce pas? Sept fois plus chaud, je ne sais pas si c'est possible, sept fois chaud, plus chaud que d'habitude. Mais une chose est sûre, on ne peut pas marcher au milieu des flammes. Et d'avoir un homme en plus, tout d'un coup, aussi. Alors, il y avait beaucoup d'encre qui était versée sur le quatrième homme. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce quatrième homme. Est-ce que c'était Jésus? Et désolé si ça vous déçoit, mais je pense personnellement, Daniel nous encourage à voir un ange ici, un fils des dieux. C'est un nom commun en Daniel pour un ange. Un ange dans le livre d'Apocalypse et en Daniel et dans la Bible entière. Les anges sont envoyés par Dieu pour aider les croyants dans les moments d'épreuve. Pensez à Jésus dans le jardin de Gethsémané, n'est-ce pas? Il était face à la croix. Il avait le sang, la sueur comme le sang, n'est-ce pas, face à la croix. Et les anges sont venus pour le fortifier. Et Jésus est appelé en Daniel le fils de l'homme, pas un fils des dieux. Alors il semble que Dieu a envoyé ses anges pour le protéger dans la fournaise. Et c'est exactement ce que les amis avaient dit, n'est-ce pas? Dieu sait nous en délivrer. Alors, quelle est la leçon pour nous, n'est-ce pas? Mais c'est une leçon capitale. On a vu, on a un ennemi qui rôde comme un lion. Il est un roi prétendant, fâché, qui va essayer de tout faire avec la terreur ou l'erreur dans l'Église. Mais n'est-ce pas super chouette de voir que Dieu protège et garde toujours ses enfants. Daniel 3 est là pour nous encourager que Dieu va vous garder, va me garder dans le feu. Peut-être on se sent si faible en arrivant ce matin, si incapable d'être courageux pour Jésus, incapable de tenir le mauvais jour, mais non avec le roi des cieux à nos côtés. Il va tenir son peuple par la main et notre Dieu sera fidèle. Voici ce que 1 Pierre nous dit en reprenant les mêmes images. 1 Pierre, sur l'écran, qui dit ceci. Il vous est réservé cet héritage dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'avez vu, chers amis, verset 5, « Oh, c'est précieux pour nous. Dans la fournaise, Dieu va vous garder. » Et le livre d'Apocalypse utilise une autre image pour dire la même chose. C'est une image du sceau. Alors, si vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir en chapitre 6, le roi utilise son sceau pour signer un décret. Quelle est la portée du sceau? Mais le sceau du roi, c'est pour dire que moi, ce que je dis, c'est irrévocable. Si je donne ce décret, alors personne ne peut le défaire. Alors, quelle portée si Dieu a mis son sceau sur nous? Mais n'est-ce pas encourageant? Ça veut dire que personne ne peut le défaire. Il va nous garder jusqu'à la fin. Voici ce que dit Apocalypse 7 sur l'écran à nouveau. Je vis un autre ange qui montait du soleil, côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant, vous voyez, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Peut-être vous connaissez cette expérience très bien, chers amis. À travers une épreuve, la souffrance, la perte, vous avez commencé à questionner si Dieu était là, si ça vaut la peine d'attendre pour le royaume éternel. Pourquoi ça m'arrive? Et vous connaissez que Dieu vous a gardé à travers ce moment d'épreuve, ce moment intense. Vous avez vu ça chez les autres. Le décès, la maladie, la perte. Dieu a gardé son enfant dans la fournaise. Notre Dieu est fidèle. Et Daniel 3 nous introduit quelque chose pour finir, ça sera plus court, le quatrième point. Daniel 3 nous introduit à quelque chose de très encourageant, c'est-à-dire la mission. Pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu vivent dans la fournaise? Nous allons voir, ça a un grand impact sur ceux qui nous observent. Et c'est exactement ce qui se passe en Daniel 3. C'est notre quatrième point ensemble. Le grand impact de la foi dans le feu. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, moi et mon épouse, on se demande, mais pourquoi cette épreuve? Ça semble être si non nécessaire, n'est-ce pas? Vous avez dit la même chose? Ça tombe au pire moment, n'est-ce pas? Pas quand on est prêt, on n'a pas le temps pour cela, mais déjà des choses étaient difficiles, et puis on a la fournaise qui arrive. Mais voici la sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont en train de nous observer, ces enfants gardés dans le feu, voici l'impact. Vous avez vu l'impact sur Nebuchadnezzar? Verset 29, il a donné un nouvel ordre. Et c'était un ordre mondial. Voici ce qu'il a dit. Maintenant, je donne à tous les hommes, à quelques peuples, nations ou langues qui appartiennent, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y en a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors nous avons vu une grande transformation, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar, lui qui voulait jeter les croyants dans la fournaise. Maintenant, il devient lui-même adorateur. Et qu'est-ce qui l'a amené à cette conclusion? Mais verset 28, c'est pas seulement l'ange qui était envoyé, c'était quoi? La foi éprouvée de ses serviteurs. Verset 28, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. » Est-ce que vous voyez ce qui amène les autres à adorer notre Dieu? C'est une foi éprouvée. Pour prendre l'image d'un pierre, comment reconnaître que quelque chose est précieux? Un métal? Mais il faut le mettre sous le feu. Et comme ça, apparemment, l'or va resplendir, tous les autres métaux vont se dissoudre, on reste avec l'or pur. On va tester, chers amis, si vous avez un héritage éternel, si on teste, on fait l'épreuve sous le feu, dit un pierre. Et comme ça, ceux qui vont vous observer au travail, vos voisins, ils vont remarquer combien est important et vrai votre héritage aux cieux. Est-ce que vous voyez la logique de Dieu? C'est comment il va amener le monde à lui-même, à travers ses serviteurs qu'il garde dans le feu. Moi, j'ai entendu parler, pour finir, à propos d'une famille en Italie, tout récemment. Un homme normal comme vous et moi, marié avec 3 enfants de bas âge. Et il y a quelques années, pendant un voyage, le feu arrive. Dans un accident de voiture, son épouse de 10 ans est morte. Et lui, le croyant, le mari, seul, abandonné, il a dû questionner si Dieu était là. Mais il n'était pas seul dans la fournaise. Dieu l'a aidé. Jusqu'à ce jour, a élevé tout seul ses 3 enfants. Une dure épreuve, qui reste dure, bien sûr. Mais telle était la manière que Dieu l'a gardée. Elle l'a gardée dans sa confiance dans la fournaise, que ses voisins en Italie, il y a peu de croyants aussi, protestants en Italie, ont vu sa ferme espérance dans le Seigneur Jésus. De rester attaché à son roi céleste dans la fournaise. Et ils ont commencé à poser des questions à lui sur la foi. Il les a invités à l'église et maintenant, ils adorent le Seigneur Jésus-Christ avec lui. Peut-être tu te demandes si lui, il était en train de vivre la fournaise comme un héros, comme les amis de Daniel. Je ne pense pas. Il était juste en train de mettre un pas devant l'autre, heure après heure, jour après jour. Pas comme une super-héros. Mais ceux qui sont autour de nous vont observer le royaume éternel que le Seigneur Jésus nous a donné par sa mort, sa résurrection. Et ça va resplendir sous le feu. Alors, chers amis, pour conclure, après ce survol de ce chapitre passionnant, retournons à notre question. Vous vous rappelez des arbres, le séquoia, le sapin? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire, chers amis? Le sapin, on le garde loin du feu, n'est-ce pas? On ne veut pas le goûter avec les pompiers. Une séquoia, c'est fait pour le feu. Alors, croyons. Le croyant en Jésus-Christ, lequel est le croyant. Alors rappelons-nous ces paroles. Ne soyez pas surpris par la fournaise comme si c'est quelque chose d'étrange, dit Pierre. Vous connaissez le temps? Nous avons un roi prétendant qui est fâché. C'est la fin. Jésus a payé le prix et Satan ne peut pas accuser. Alors il va faire des dommages. Le feu, c'est un signe des temps. Le feu, c'est un signe de votre sceau, que Dieu a mis son empreinte sur vous, son Saint-Esprit. Et troisième, ça veut dire qu'il va vous garder dans la fournaise. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y avait pas une seule griffe, n'est-ce pas chouette, sur les serviteurs. Et ça va être le même pour vous et pour moi. Est-ce que vous voyez la sagesse de Dieu? Il va amener vos voisins, vos collègues, à la croix, à la résurrection, à l'héritage éternel que nous avons quand votre foi est mise à l'épreuve. Nous avons besoin de son aide. Alors prions pour terminer ensemble. Notre Père Céleste, en effet, nous avons peur, nous ne nous sentons pas super courageux ni forts pour faire face à la fournaise. Mais merci parce que tu es le Dieu de Daniel et ses amis. Merci parce que tu es le Dieu qui garde ses enfants, qui les délivre de la fournaise. Nous te bénissons pour ta main bienveillante qui repose sur nous, même aujourd'hui. Nous prions pour ton aide d'être éveillé quant aux tactiques du diable par la pression. Ce monde, ce Babylone qui brille devant nos yeux, la souffrance, l'attrait de ce monde. Garde nos yeux fixés sur ce royaume qui est sûr, inauguré par Jésus, qui est assis sur son trône déjà aujourd'hui. Aide-nous à être, par ta main puissante, courageux alors, de ne pas nous prosterner, mais attendre, d'attendre avec patience le royaume éternel. Et nous prions pour nos amis, pour nos familles, nos collègues qui seront face à ce châtiment éternel. Nous prions pour ta pitié, que eux, ils voient ce royaume qui resplendit et qui vienne à la lumière et au salut. Et merci pour ce privilège d'être tes enfants et même de faire partie de cette mission. Alors nous prions pour ton aide ce matin, pour cette semaine, que tu nous gardes, notre Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen.